Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Comment allez-vous? Très, très bien ce matin. Très, très, très bien. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est là? Dieu est là. Si Dieu n'était pas là, je ne m'aventurerais pas à parler. Hein? Dieu est au milieu de nous. Et je crois qu'au milieu de nous, Dieu fait des choses extraordinaires. Ce matin, j'en ai eu la forte conviction. Je le sais déjà, mais souvent Dieu nous fait des rappels. Souvent Dieu nous fait des rappels. Et ce matin, j'ai fortement ressenti cette parole en moi qui disait « Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. » Dis avec moi quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu le crois? Ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu vas recevoir. Si tu t'attends à une année extraordinaire, une vie extraordinaire, tu auras une vie extraordinaire. Si tu t'attends à une année banale, tu auras une année banale. Il te sera fait selon ta foi. Héritier des promesses par la foi. C'est pas ce qu'on a vu pendant 5 semaines. Moi, en tout cas, j'ai envie d'être comme le fils prodigue qui est allé voir son père et qui a dit « Papa, moi, je veux mon héritage. Je veux mon héritage. Je refuse d'avoir une vie sur la terre sans mon héritage. » Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à prendre les enseignements dès qu'ils seront disponibles et vous comprendrez. Parce que lorsque nous ouvrons notre Bible, elle est remplie de promesses. Elle est remplie de promesses et la Bible nous parle tout le temps d'héritage. Et la principale raison qui fait que beaucoup de chrétiens sont frustrés, c'est parce que quand ils ouvrent la Bible et qu'ils la lisent et la méditent, ils se rendent compte que c'est le jour ou la nuit entre ce qui est écrit et leur vie. Et au bout d'un moment, ils fatiguent et ils laissent la main du Seigneur. Pourtant, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible.
C'est possible.
Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple. C'est possible de connaître Dieu. C'est possible d'avoir une relation intime avec le Seigneur. C'est possible d'être guéri lorsqu'on est malade. C'est possible de marcher lorsqu'on est dans une chaise paralysée. C'est possible de voir et de retrouver la vue quand on ne voit pas. Parce que tout simplement, Dieu nous l'a montré dans sa parole. Et ce qui est dans sa parole, chaque fois qu'il te le montrera, ça veut dire que c'est possible que cela arrive aussi dans ta vie. Amen. Et moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont choisi de vivre une vie banale. On va vivre une vie humble, avec par la grâce de Dieu, ok? Mais je veux Dieu. Tu vois, non? Je veux Dieu. Je veux Dieu, je vous assure. Hein? Malheureusement, il y a beaucoup qui entendent ces paroles-là, et puis quand ils repartent, bon, la vie redevient comme avant. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être comme quelqu'un quand il entend les choses. Il faut être réceptif. Tu vois? Il faut être réceptif. Et tout ce que nous avons dit pendant plusieurs semaines, je vous assure, le Seigneur, par exemple, à l'étranger, pour les gens qui ont la grâce d'écouter ce que nous écoutons ici sur Internet, il y en a, je vous assure, ça leur fait vraiment quelque chose dans la tête. Hein. Il y en a qui ont grandi dans des églises où toute la vie, on leur parle de délivrance, on leur parle de tout un tas de choses. qui sont des bonnes choses, hein, qui sont des bonnes choses, qui ne sont pas mauvaises, il faut en parler. Mais ils se rendent compte au bout d'un certain temps que leur vie en Christ ne change pas. Il y en a, ils sont dans les églises depuis des années, des années, des années, des années, des années. Ils sont toujours aussi médiocres, toujours aussi pauvres, toujours les mêmes problèmes. Mais au bout d'un moment, ta vie en Christ, elle sert à quoi en fait? Parce que Jésus-Christ, c'est un plus. Dis-moi, c'est un plus. C'est une valeur ajoutée. Quand on rencontre Jésus-Christ, notre vie est censée changer. Notre vie est censée passer à une dimension supérieure. Pas régresser. Parce qu'il y a des chrétiens, quand on les voit, même le païen, quand il voit la vie, il dit, ça là, je ne veux pas. Je préfère rester païen que de devenir chrétien. Parce qu'il y en a, quand on voit, le chrétien, c'est la lumière. Jésus-Christ a dit, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. C'est pas ce qu'il a dit. Vous êtes la lumière du monde. Que les hommes voient briller vos œuvres et qu'ils rendent gloire à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit, non? Après, il rajoute, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, alors avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes semblable à une maison perchée sur une colline qui éclaire toute la vallée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie est censée briller. Dis avec moi, briller. Quand on dit briller là, c'est pas briller de l'argent, des belles voitures, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de la manifestation du caractère de Christ dans ta vie. Et quand les gens regardent le changement radical qu'il y a eu dans ta vie depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ils disent faut que tu me montres l'église du prix là, j'ai envie de venir un peu là-bas. Non mais c'est vrai ce que je vous dis là. C'est vrai. Au bout d'un moment, il y en a, Dieu, il s'ennuie. Il dit, mais lui là, la vie ne change pas depuis là. Tu es au contact de la parole tous les jours, tu entends des choses puissantes et fortes, mais tu es toujours dans les mêmes frustrations. Les mêmes... Non. Il faut que ça change. Dis-moi, il faut que ça change. 2015, là, il faut que ta vie change. Hein. Ah oui, hein. Il faut que ça bouge, il faut que ça déménage. Il faut passer à un autre niveau, là. Non, mais c'est vrai. Dieu, ce n'est pas un Dieu du statu quo. Hein. La Bible dit dans le livre des Actes qu'il est celui qui crée en nous le mouvement et l'être. C'est pas ce qu'il dit. Il crée en nous le mouvement et l'être. C'est-à-dire que tu es censé bouger. C'est... Oui. C'est pour ça que quand tu es au contact de la parole, une fois j'ai utilisé un terme ici, divinement intelligent, quand tu es au contact de la parole, ta mentalité change, ta manière de voir le monde change, ta perception change, ta manière de parler change, même ta manière de marcher change, même ta manière de t'habiller change. Oui? Parfois, il faut activer les choses par la foi. Il faut activer les choses par la foi. Ton comportement, tu te comportes comme la personne que tu es censé devenir. En fait, tu appelles la personne à l'existence parce que c'est ce que tu es censé devenir. Hein? Quand tu voyais Barack Obama avant qu'il soit président, le gars, il se croyait déjà président. Quand il marchait, c'était la démarche du canard. Parce que pour lui, il était déjà devenu président. Toi, pareil, comporte-toi comme tel. Il y en a, par exemple, elles veulent se marier. Comporte-toi comme une femme qui est mariée. Comme ça, le gars, quand il va te voir, il va dire, ça, c'est celle qu'il me faut. Tu as besoin d'argent, tu veux de l'argent. Comporte-toi comme quelqu'un qui a de l'argent. Va boire les jus d'orange dans les beaux hôtels. Comme la semaine dernière, j'ai raconté. Hein? Comporte-toi comme tel. Appelle à l'existence le surnaturel. Là. Amène ça ici. Non, mais je le dis en souriant, mais je vous assure, ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Parce que ce qui t'attend devant, c'est grandiose. Amen. C'est grandiose. Jésus-Christ a dit, Jean 10, 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance t'attend devant. 2015 sera une année d'abondance au nom de Jésus-Christ pour toi.
Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Romains 5, 17, s'il vous plaît? Romains 5, 17, nous sommes toujours dans notre série que nous avons commencé depuis le 31, la grâce surabondante. Dites-moi la grâce surabondante. Ah, je vous assure que Dieu nous a amenés là-dedans parce qu'il veut nous amener à expérimenter des choses vraiment puissantes pour cette saison. Et aujourd'hui, la semaine dernière, on a introduit la grâce, on est resté dans l'introduction de la grâce. Je dirais qu'aujourd'hui, on est encore dans l'introduction parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur ce point, comprendre le but et le rôle de la grâce. Dis avec moi, la grâce. La grâce, c'est extrêmement important de comprendre ce qu'est la grâce. Toute la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, ne te parle que de la grâce. Et j'ai compris, depuis que j'ai commencé à explorer ce point dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte que c'est le principal sujet de frustration de la plupart des enfants de Dieu dans les églises. C'est parce que les gens n'ont pas compris ce qu'est la grâce. Amen. Romains 5 au verset 17 nous dit, c'est notre verset de base, mais on va en aborder tellement d'autres, que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, dites moi l'abondance de la grâce, et le don de la justice, régneront, dites moi régneront. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Le mot utilisé ici n'est pas n'importe quel mot. Régneront. Parce que quand on parle de règne, beaucoup de chrétiens se sentent, déconnectés. Parce que quand on parle de règne, on parle de royaume, on parle de domination, on parle de puissance, on parle de beaucoup de choses. Mais comme on a formaté beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises et ailleurs à ce que j'appelle la mentalité d'esclaves, quand on leur parle de mentalité de royauté, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. On va aller plus loin dans la version parole vivante. C'est encore Paul qui parle, mais elle est encore plus explicite. Elle dit, en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce, c'est comme les trésors immenses de la grâce, et le don de l'acquittement participeront au règne, dis avec moi le règne, de la vie par Jésus-Christ. Deux points, dès ici-bas, dis avec moi dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en... Ce verset est très puissant, parce qu'il parle de toi. Et je peux t'assurer que c'est l'un des passages au tout début de ma vie chrétienne, quand j'ai donné ma vie à Christ en 2003, que c'est l'un des passages qui a changé ma vie. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, ce genre de choses, c'est écrit dans la Bible. Moi, je pensais que la Bible, c'était un livre religieux où on parle des anges qui sont blancs avec des toches, tout ça. Moi, je pensais que c'était ça. Mais non, on parle de royauté, on parle de règne, on parle de domination. Et comme moi, c'est quelqu'un qui voulait vraiment posséder la vie, j'ai dit, ah, ça me parle, ça. Ça me parle. Et au tout début, on se rend compte que, enfin, on pense que cette histoire de règne dans la vie-là, c'est parce qu'on va faire des choses, c'est parce qu'on va construire des choses, on va construire des empires, on va devenir tous des présidents de la République, on va dominer le monde, on va tous devenir des multimilliardaires, et puis on commence à faire des choses, etc. Et puis on se rend compte que, après avoir accompli tout un tas de choses, on fatigue et il n'y a pas de résultat. L'une des raisons principales qui fait que beaucoup de chrétiens quittent l'église, c'est parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Beaucoup prient, par exemple, ils prient, ils ne voient pas de choses s'accomplir, et puis ils arrêtent de prier, parce qu'au bout d'un moment, ils fatiguent. Et après avoir accompli tout un tas de choses, on se rend compte que on n'a toujours rien et puis on abandonne, on renonce, notre vie chrétienne commence à devenir fade, on ne vient plus à l'église, on ne s'intéresse plus à Dieu, on se contente d'un boulot ou d'attendre les taxis sous le soleil, j'en sais rien, mais on se rend compte que la vie n'est pas si intéressante que ça en Christ. Et quand tu commences à comprendre ça, tu découvres en fait que, mais en fait cette histoire de règne dans la vie là, c'est pas une question d'accomplissement, c'est une question de grâce. Dis avec moi la grâce. Il y a des gens, un jour j'entendais quelqu'un qui posait une question à un pasteur que j'aime beaucoup, que je connais très bien, qui s'appelle le pasteur Mamadou Karambiri, et la personne lui disait, mais pasteur, moi je prie depuis, je suis malade, je veux être guéri. Vous dites tout le temps règne, tout ça là, que c'est possible avec Jésus, etc. Moi je ne crois pas. J'ai prié, j'ai jeûné, je me suis consacré, je suis fidèle, je ne pêche pas, je paye ma dîme, je viens à l'église. Mais pourquoi Dieu me laisse toujours dans une telle misère? Et en fait moi quand j'ai écouté la personne parler, je me suis rendu compte que dans tout ce qu'il disait, il disait toujours « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et Dieu a fait quoi? Et en fait, tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu es dans faire des choses, faire des choses, faire des choses. Et tu t'attends à des résultats. Et les résultats ne viennent pas. Et en fait, c'est là le problème. Le problème, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire des choses. Dieu nous demande simplement d'accepter par la foi ce à quoi on s'attend. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans le livre de Marc que celui qui prie, quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà. Pourquoi alors, si tu crois que tu as déjà reçu, tu te comportes comme si tu n'avais pas? Hein? Et on a dit que, c'est quoi la définition du miracle que je vous donne déjà depuis 2 semaines? La définition du miracle, c'est la rencontre entre la grâce et la foi. Chaque fois que Jésus-Christ venait guérir quelqu'un, il disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi, pas la mienne. Moi j'ai la foi, il n'y a pas de problème, je suis Dieu. Mais il faut que la grâce à laquelle tu t'attends puisse trouver, comment dire, ce dont elle a besoin. C'est-à-dire la foi. Dis avec moi la foi. On aura tout un enseignement sur la foi encore cette année. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume. Tout comme dans le monde, la monnaie d'échange s'appelle l'argent, dans le royaume de Dieu, la foi est notre monnaie d'échange. Tout ce que tu veux acquérir dans le royaume, n'importe quoi, spirituel ou matériel, tu as besoin de la foi. Et pour que Dieu puisse te donner ce que tu demandes, pour que Dieu puisse te débloquer la promesse qui te revient, il débloque ce qu'on appelle une grâce. Mais pour pouvoir saisir cette grâce-là, il te faut la foi. Dis avec moi la foi. C'est là maintenant que le miracle se passe. C'est pour ça que 2 personnes peuvent avoir la même maladie, être assis là, entendre la même parole, mais leur niveau de foi va faire que un va avoir le miracle, l'autre ne va pas avoir. Pourtant, la parole est arrivée dans les cœurs des deux. Mais il y en a juste un qui va avoir suffisamment de foi pour « Ah, je vais saisir cette grâce-là qui passe. » Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a également dit qu'il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle la faveur et ce qu'on appelle la grâce. La faveur, on a dit que c'était une promesse, si je peux dire ça ainsi, limitée dans le temps. Hein? Pour une personne bien spécifique, à un moment bien spécifique. C'est comme par exemple, j'ai pris cet exemple-là, par exemple, tu es chez toi, et puis il y a ta ménagère, ou bien quelqu'un qui est chez toi qui n'est pas de ta famille, mais que tu aimes bien, et qui te dit, j'ai un problème, j'ai besoin d'argent. Tu n'as pas l'habitude de lui donner de l'argent, mais aujourd'hui, tu lui accordes cette faveur, d'accord? Tu lui donnes de l'argent. Ce n'est pas quelque chose d'éternel, tu lui donnes cette faveur. La particularité avec la faveur, c'est que tu peux demander en retour quelque chose. Ou tu peux dire, non, c'est bon, je te donne une fois. D'accord? Eh bien, c'est ceux qu'ils ont vécu dans l'Ancien Testament, les héros de la foi. Ces gens ont reçu, ont eu des faveurs, ont eu la faveur de Dieu. La différence avec nous, c'est que nous, on n'est pas dans la faveur. Nous, on est dans la grâce. Dis avec moi la grâce. La différence avec les gens de l'Ancien Testament, c'est que eux, c'était des serviteurs. Moïse, c'était un serviteur. David, c'était un serviteur. Abraham, c'était un serviteur. Nous, on est les fils. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes qu'il y a eu, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Pourquoi le plus petit? Parce que le plus petit, c'est l'enfant de la maison. Donc, si toi, tu es fils, il y a une grâce surabondante et illimitée dans le temps, c'est-à-dire éternelle, qui repose sur toi. C'est ce que Paul s'est vertu à expliquer dans tout le Nouveau Testament. Éphésiens 1:30. Nous sommes bénis. Dis-moi, je suis béni. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La version parole vivante dit que Dieu a pris toutes les bénédictions que les cieux contenaient et les a déversées sur nous. C'est ce qui est écrit. Donc, la différence entre eux, c'est qu'eux, ils ont eu des faveurs. Eux, par exemple, Moïse ou bien un roi comme David, etc., ils avaient le Saint-Esprit qui venait une fois, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et le Saint-Esprit repartait. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas rester dans leur corps parce qu'ils étaient des pécheurs. Ils n'avaient pas reçu le don de la rédemption en Jésus-Christ parce que Christ n'était pas encore venu sur la terre. Mais nous, nous sommes fils depuis le jour où Jésus-Christ est ressuscité. La Bible dit dans Éphésiens 2 qu'il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui à la droite de Dieu. C'est ce que tu es en ce moment où je te parle. Tu es assis à la droite de Dieu. Et il y a une grâce que Paul appelle ici dans Romains 5:17, une grâce surabondante qui abonde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit la Bible. Ça veut dire que la grâce est aussi une faveur. Mais la différence avec la faveur de l'Ancien Testament, c'est que cette faveur est illimitée dans le temps. C'est pour cela que quand tu es à la maison, même si la ménagère dort à la maison, elle n'aura jamais la même place que ton enfant. Jamais. Même si l'enfant est bébé comme quoi, si elle ose mettre la main sur l'enfant, tu vas la bastonner comme quoi. La ménagère dans la maison, elle est obligée de travailler pour avoir de l'argent à la fin du mois. L'enfant, il ne fait rien. Il squatte devant la télévision et l'héritage qui est dans le compte en banque lui appartient. La ménagère ou le gardien, il sert dans la maison pour avoir un pécule à la fin du mois et quand c'est fini, il prend le taxi le soir. L'enfant, même sans demander la permission, il prend les clés sur le meuble et puis il prend la voiture et il s'en va. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour cela que dans Hébreux, la Bible dit que les Moïse et les autres ont servi dans la maison de Dieu comme des serviteurs. Ils étaient obligés de faire des choses pour avoir des récompenses. Nous, on ne fait rien. Dieu nous a simplement donné. Est-ce que vous me suivez? Voici un peu en quelques mots comment on peut résumer ça. Et Paul nous dit ici, recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Voici les clés de la percée. Les clés de la percée, c'est de recevoir l'abondance de la grâce de le don de la justice, à savoir être, à savoir cette capacité que Dieu nous donne, cette justification-là que Dieu nous donne d'être en phase avec sa parole. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un point, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est extrêmement important. Et quand je dis ça, bien sûr qu'il faut être, il faut travailler, il faut avoir des projets, il faut planifier sa vie, il faut avoir des objectifs. Bien sûr qu'il faut faire ça. La différence entre le païen et toi, pourtant vous deux aussi, vous deux vous planifiez, vous deux vous fixez des objectifs. Vous n'avez pas vu que dans le monde, il y a plein de livres qui parlent de développement personnel, de succès, les lois de succès, tout ça, tout ça. Si c'était si simple de réussir avec tous ces bouquins, on serait tous très bien.
Tu n'as pas remarqué qu'il y a des livres, tu les lis, tu dis, oh, c'est fort, oh, c'est fort, c'est fort. Tu les mets même dans ton placard, quand quelqu'un te dit, prête-moi, tu dis, oh, non, 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 pas ce livre-là, etc., etc., mais tu es toujours aussi broke. Tu vois. Donc, la différence entre le païen et toi, c'est que vous deux vous planifiez, vous deux vous connaissez certaines clés de la réussite. La différence, c'est que lui, il fait des choses et il s'attend à recevoir quelque chose. Toi, avant de commencer à faire des choses, tu sais déjà que tu as reçu par la grâce. Vous voyez, non? Amen. Est-ce qu'on veut prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17? Un verset qui a aussi transformé ma vie, ma manière de voir les choses. J'aime toujours attendre avant d'exposer le verset parce que je veux toujours que tu ouvres ta Bible. Parce qu'il y en a maintenant, vous venez maintenant sans Bible à l'église. Depuis quand vous avez dit combien il y a une église sans Bible? Il faut avoir la Bible. Un bon chrétien, il a toujours sa Bible. Amen. Et au moins la Bible dans le téléphone. Si ton téléphone n'a pas de Bible, ce n'est pas un téléphone. Jean chapitre 1, verset 17, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit quoi? Il nous dit, la loi, dites-moi la loi, a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah! Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est extrêmement important. Il faudra être très attentif. Parce que c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont frustrés. Il est très important de comprendre qu'en tant que croyant, le message de la grâce est celui qui nous permet de construire, de bâtir cette relation-là d'intimité avec Dieu. Tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que la grâce, on restera frustré et on verra toujours Dieu comme le papa fouettard. C'est vrai? Si la Bible dit que nous avons été libérés ou encore délivrés, on a été délivrés de quoi? Quand tu dis par exemple, je suis libéré, tu es libéré de quoi? Parce que je ne vois pas une différence depuis quand tu étais dans le monde et aujourd'hui, physiquement en parlant, je ne vois pas de différence. Donc tu as été libéré de quoi? Amen. La Bible nous montre que dans tout le Nouveau Testament, c'est ce que Paul vient expliquer. La Bible nous montre que nous avons été libérés de quelque chose que l'on appelle la loi. Dis avec moi la loi. Pourtant, la Bible nous dit aussi que la loi est bonne, juste et juste. Mais alors pourquoi Dieu nous a délivrés de quelque chose qui était bon pour nous? Qui a donné la loi? C'est Dieu lui-même. Au travers de qui? De Moïse. Mais pourtant, Paul nous explique que nous avons été libérés de cette loi-là. Vous allez comprendre. La loi a été donnée par Dieu pour un but. Dis avec moi un but. Et la grâce est venue aussi pour un but. Ici, dans ce verset, qui est extrêmement important, tu vas remarquer deux choses. La première, c'est que il y a la loi et il y a la grâce. D'accord? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais... C'est que, entre la loi et la grâce, tu vas te rendre compte que la vérité avait déjà choisi son camp. La vérité est de quel côté? La vérité est du côté de la grâce. Pourquoi? Parce que, voici la différence entre la loi et la grâce. C'est que, dans la loi, il y a une notion de distance avec Dieu. Dans la grâce, il y a une notion de proximité. Je m'explique. La loi est un ensemble de règles, un ensemble de préceptes, un ensemble de rites, d'habitudes, de traditions, de coutumes que les Juifs devaient respecter. Et d'un point de vue spirituel, que nous aussi, nous étions censés respecter. Amen. Le problème avec la loi... C'est que la loi, bien qu'elle soit juste, bien qu'elle soit bonne, bien qu'elle soit importante pour l'homme,
La loi, bien qu'elle soit juste et bonne, ne pouvait jamais nous rendre nous-mêmes justes et bons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu pouvais suivre les règles, tu pouvais obéir à la lettre, etc., etc. Ça n'allait jamais changer ta condition devant Dieu. Il y aurait toujours cette distance-là entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu avait dit que l'homme est déclaré pécheur. Maintenant, la loi, Dieu la donne. Mais ce qui caractérise la loi, c'est que la loi, elle est froide. Elle est dure. Elle dit, si tu ne fais pas ça, pain. Ça, c'est la loi. Donc, les gens, en fait, faisaient tout pour respecter la loi. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, Dieu allait les frapper. Voici ce qu'est la loi. La loi ne nous permettait pas de construire une intimité personnelle avec Dieu. La loi ne peut pas faire ça. Et voici la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de gens qui sont dans la religion. Dis avec moi la religion. C'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils arrivent à Christ dans l'église, ils fonctionnent selon la loi. Parce qu'ils ont été formatés selon la religion. Donc, quand tu prends par exemple la religion, la religion où on prie une femme là, d'accord? J'ai pas envie de dire le nom, parce que si je dis le nom, je vais encore recevoir des mails. La religion où on prie une femme, fais ci, fais ça. Si tu fais pas ça, tu dois aller plier les genoux, te blesser les genoux, faire des pèlerinages, etc. Des chapelets. Quand tu peux, tu fais comme ça. On te dit qu'il faut faire comme ça. Parce que si tu ne fais pas comme ça, Dieu ne peut pas t'écouter, Dieu ne peut pas te parler, tu ne peux pas, etc., etc. Quand tu as un problème, tu dois prier ce psaume. Quand tu es content, tu pries ce psaume. Quand tu n'es pas content, tu pries ça. D'accord? Quand tu veux rendre grâce, tu pries ce psaume. T'as dit, on vous raye comme des robots, quoi. Donc, un jour, j'étais à une réunion, parce qu'il y avait, une quel mot utiliser, sinon ils vont savoir de qui je parle. Une bâtisse à côté de chez moi, où j'allais souvent à l'époque. Et puis, nous allons tous nous lever, et puis nous allons prier. Tu as ramené un gros bras, là. L'autre père, imaginez que je vous dise tous de vous lever, et puis je vous dis, alors nous allons prier comme ça, nous prions comme ça. Maintenant, nous avons fini de prier, maintenant nous allons prier comme ça. C'est-à-dire, c'est pas mauvais, hein. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais je suis en train de vous dire que, c'est-à-dire, vous êtes formaté comme ça. Mais qui vous dit que Dieu a dit de prier comme ça? On va de l'autre côté. Chez ceux qui ont... C'est ceux qui sont allés faire le désordre à Paris en ce moment. Hein. Pardon, je ne veux pas avoir les problèmes. Bon, ce sont les extrêmes, hein, d'accord? Moi, je ne parle pas de ceux qui sont des gens bien normalement, d'accord? Ceux-là, tu touches à celui qu'ils aiment. Oh, ils te foncent à Dieu. Et celui qu'ils aiment dit que si tu ne fais pas ça, on te coupe les pieds. Si tu voles, on te coupe la main, comme en Inde. Si on t'attrape avec une femme alors que tu es marié, on te lapide. La loi a dit que... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la loi, c'est un ensemble de règles et de commandements que Dieu avait imposés. D'accord? Et si on ne respectait pas ces règles, on nous punissait. En revanche, la grâce, c'est quoi la grâce? Ah, là vous aimez bien, c'est la bonne partie du film quand vous dites. Parce que je voyais un calme là. Non. La grâce, elle ne vient pas pour nous imposer quoi que ce soit. La grâce, elle vient dans le seul et unique but de construire une relation intime avec nous. La différence entre la loi et la grâce, la plus importante est celle-ci, c'est que la loi, c'est un ensemble de règles. La grâce, c'est une personne. Dis avec moi une personne. Tu ne peux pas construire une relation intime avec des règles. Tu peux construire une relation intime avec une personne. C'est pour ça que la découverte que j'ai faite, c'est que la grâce, ce n'est pas juste un mot. La grâce, c'est une personne, en la personne de Jésus. C'est pour cela que quand la grâce se révèle à nous, elle se révèle au travers d'une personne. La loi ne s'est jamais révélée au travers d'une personne. On entendait la voix de Dieu sur la montagne, boum, dis-leur de ne pas s'approcher, sinon je les tue tous. La loi ne s'est jamais révélée, mais un jour, elle se manifeste, fait de chair comme nous. Et il dit, je suis la grâce, c'est moi. Et c'est là que tout change. Et c'est là que Jésus a été confronté au principal problème qui est que les gens disaient, mais Jésus, Jésus, tu parles bien, ok, c'est cool, mais tu es en train de nous dire qu'on peut avoir une relation intime et personnelle avec Dieu? Oui, on peut. Non, c'est pas possible. Et c'est là toute la révélation en Jésus-Christ. C'est que quand Christ vient dans notre vie, la première chose que Dieu, que Christ veut, c'est construire une relation personnelle avec nous. Peu importe ta condition, peu importe ton péché, peu importe ta faute, peu importe ce que tu as fait, il ne vient pas regarder ton péché ou ta faute pour te frapper dessus. Il dit non. Je viens d'abord pour te démontrer mon amour envers toi et je t'aime comme tu es. La loi nous oblige, enfin, on se sent obligé d'obéir à la loi parce qu'on a peur d'être frappé. Vous voyez? Alors que la relation avec Jésus-Christ, on obéit pas parce qu'on a peur, on obéit parce qu'on l'aime. Amen. On avance. Alors, si la loi ne nous permettait pas d'être trouvés bons, justes et agréables devant Dieu, pourquoi alors Dieu l'a donnée? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi? La loi, Dieu l'a donnée pour une seule chose. Ce que je vous explique là, c'est très important. C'est très, très, très important. Si on ne comprend pas ça, on rate toute la doctrine. La loi, Dieu l'a donnée parce que tout simplement, toutes ces mauvaises choses, particulièrement notre nature pécheresse, si la loi n'était pas venue, on n'aurait jamais su qu'on était pécheur. Regardez. Si Dieu ne nous donne pas la loi, on ne peut pas connaître notre condition de mort ou notre condition d'impureté. La loi vient dans le seul objectif d'exposer notre imperfection devant Dieu. Et c'est quand nous découvrons notre imperfection, quand nous découvrons qu'on ne peut rien faire sans Dieu, c'est là maintenant qu'on choisit de s'abaisser et dire, bon Dieu, s'il n'y a que toi, alors fais-le. Le problème avec la religion, c'est cela. C'est que les gens se disent, mais après tous les efforts que j'ai faits, après tout ce que j'ai pu faire, si je n'y arrive pas, eh bien, tant pis, j'abandonne et puis je me contente de vivre dans ma condition pécheresse comme ça. Et on en retrouve plein dans la religion. Comme ça. Alors que la grâce, par exemple, la clé pour pouvoir être délivré de certaines addictions. Il y en a par exemple qui sont dans certaines addictions telles que la pornographie, la masturbation, la cigarette, la convoitise des femmes. Je ne sais pas comment, je peux pas résister. Convoitise des hommes aussi. Il peut pas s'empêcher. Il est un poste. Il voit de l'argent passer tous les jours devant lui. On lui dit, ne touche pas. Joe, il y a trop d'argent, je suis obligé de voler. Il est marié. Mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir mille et une femmes à gauche et à droite. Il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Et on lui dit, mais arrête. Il dit, je ne peux pas. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai prié Dieu, tout ça. Tout ça. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est qu'il faut t'en remettre à sa grâce. Si tu t'en remets à toi-même, tu ne pourras jamais arrêter la masturbation. Tu ne pourras jamais arrêter de regarder les films porno. Tu ne pourras jamais arrêter de draguer les filles. Tu ne pourras jamais arrêter de voler. Tu ne pourras pas. Parce que tu ne peux pas. Parce que le péché est plus fort que toi. Il faut t'en remettre à Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Dès que tu dis Seigneur Jésus, je m'en remets totalement à toi. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Tu vas voir, tu ne sais pas d'où ça vient, mais il y a juste une force qui monte en toi et qui te permet maintenant de dire non. C'est ça la grâce. Amen. La Bible nous dit, dans Romains 7, au verset 7, « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Quand tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu n'as pas remarqué que quand tu étais dans le monde, aller en boîte de nuit, ce n'était pas un problème pour toi. Sortir avec une fille, ce n'était pas un problème pour toi. Capote ou sans capote. C'était aucun problème. Mais dès que tu arrives dans le Seigneur, tu ouvres la parole, tu écoutes la parole, et puis on te dit, tu ne touches pas à une femme avant le mariage. Ah! Ça, c'est quoi? Il faut d'abord que je goûte tout ça, non? Non, tu ne touches pas avant le mariage. D'accord? Ok, Seigneur, il n'y a pas de problème, je veux suivre Jésus. Je suis maintenant chrétien, je suis à l'église, etc., etc. Tu n'as pas remarqué que quand tu étais dans le monde, dès que tu voyais une fille, il n'y avait aucun problème, tu marches, tu la regardes, oh, la fille là, oh, gars. Il n'y avait aucun problème avec ça. Mais tu vas remarquer que maintenant que tu es en Jésus-Christ, quand la fille passe, tu veux la regarder, mais il y a un truc qui monte au tas. Ça vient d'où ce truc là qui te... Ou bien dès que tu la regardes quand même, et quand tu la regardes, tu sens un remont, tu dis oh, tu j'ai péché, oh, oh vraiment. Ça vient d'où ça? Parce que tout simplement, il y a un élément en toi qui a été activé, que l'on appelle le péché. Dis avec moi le péché. Parce qu'avant, tu savais pas qu'il y avait le péché. Et quand tu es maintenant en Jésus-Christ, le péché maintenant est exposé. Et tu te rends compte que, mais là, j'ai du mal, mais non. Je veux aimer Jésus, mais j'aime, je veux toujours aller vers toutes ces choses-là. Pourtant, je sais que maintenant que c'est mauvais, mais avant, tu ne savais pas que c'était mauvais. Avant, tu ne savais pas. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Amen. Paul nous dit dans une autre version, la version parole vivante, du même verset, il dit, faudrait-il en conclure que la loi et le péché sont une seule et même chose? Certes, non. Mais par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de quoi? De ma culpabilité. C'est ce que la loi crée. C'est ce que... quand elle entre, elle te fait prendre conscience que maintenant, là, tu n'es pas aussi bon que ça, en fait. Et tu es un pécheur. Et la loi, elle ne met pas dedans. Quand elle arrive avec le marteau. Tu es un pécheur. Satan, quand il vient, tu as péché. Et là, tu te sens coupable. Continue. Par exemple, je n'aurais pas su que c'est mal de désirer ce que les autres possèdent. Tu vois, non, quand tu es greedy, là, tu veux les choses des autres, tu vois quelque chose avec quelqu'un, tu commences à jalouser, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça, pourquoi lui c'est moi aussi je veux ça, etc. Avant dans le monde, tu ne sentais pas ça, mais maintenant que tu es maintenant en Christ, tu sens que ce n'est pas bon. Si la loi ne m'avait dit, tu ne combattras point, je ne me serais jamais senti coupable sans cette déclaration. Mais alors, le péché qui est en moi a trouvé dans le commandement une occasion de se manifester. Il s'en est forgé une arme contre moi. Et c'est là maintenant que tout prend sens. C'est que l'interdiction même lui a servi pour susciter en moi toutes sortes de convoitises. La défense n'a fait qu'exciter mes mauvais désirs. Or, là où il n'y a pas de loi, le péché est inerte. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que tant que la loi ne s'était pas révélée à toi, tu ne pouvais pas savoir que tu avais toutes ces mauvaises choses-là en toi. Mais quand la loi arrive, elle met en lumière ta mauvaise condition et ton péché. Mais la grâce, dis avec moi la grâce. La grâce, elle, quand elle arrive, quand elle arrive, bien sûr, tout est en lumière. D'accord? Bien sûr, ton péché est exposé. La loi, elle va se focaliser sur ton péché et te frapper. La grâce, elle ne se focalise pas sur ton péché. Elle se focalise sur toi et l'amour de Dieu. C'est pour ça que David dit dans le psaume 32, verset 1, « Heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Heureux celui à qui Dieu ne retient pas sa faute. Heureux cet homme-là. » Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ était extraordinaire. On trouve la femme en flagrant délit d'adultère, tout le monde est déjà prêt à la frapper. Jésus-Christ dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bon, ils jettent tous, ils se rendent tous, qui sont tous pécheurs et ils s'en vont. Elle reste seule. Où sont ceux qui t'accusent maintenant, femme? Elle répond, je ne vois personne, personne ne m'accuse. Ok, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, s'il y avait bien quelqu'un qui pouvait prendre la pierre en premier, c'était lui. Et c'est là où l'amour, l'intimité que nous avons avec Jésus prend tout l'autre sens. C'est là où on se rend compte, oh Seigneur, je me rends compte qu'en fait, en tant qu'homme, j'étais si sale, si pécheur que ça. Et toi, Dieu, qui est pourtant saint, tu m'acceptes. Amen. Et c'est là où toute notre vie chrétienne prend tout son sens. C'est-à-dire, on commence à aimer le Seigneur, pas parce qu'il nous oblige à faire des choses. Mais on l'aime et on lui obéit parce que tout simplement, il nous a acceptés tels que nous sommes. Amen. On avance. Donc, la grâce n'est pas une doctrine ou un enseignement. La grâce, ce n'est pas un ensemble de règles. La grâce, c'est une personne qui se révèle à nous en la personne de Jésus-Christ. Et cette personne, quand elle se révèle à nous, elle ne regarde pas à nos fautes, elle nous accepte tel que nous sommes. Et son seul désir, c'est de construire une relation d'amour et d'intimité avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup qui nous dit, Romains 5, 6, version parole vivante, il dit, « En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, dis avec moi le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, dis avec moi le Christ. Le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? C'est-à-dire que tu te rends compte que pendant que je faisais toutes mes bêtises là, Dieu m'aimait déjà. Et ce que Dieu espérait, c'est juste que je me rende compte, enfin que je choisisse de prendre sa main. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, Dieu t'aime. Dis-le à quelqu'un, Dieu t'aime. À cause du péché, notre destinée était anéantie et nous ne pouvions pas régner dans la vie comme c'était prévu au départ. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, est venu rétablir cette position que nous avions perdue. De quelle position il s'agit? La position que nous avions, elle est tridimensionnelle, si je peux dire ça ainsi. Elle se compose de trois parties. La première, c'est une position d'intimité. Dis avec moi l'intimité. La deuxième position que nous avons avec Jésus-Christ, c'est la position de fils héritier. Et la troisième, qui est la plus importante des trois, c'est la position d'épouse. Dis avec moi l'épouse. La différence entre l'épouse et le fils, c'est laquelle? Parce que la Bible nous identifie à la fois comme des fils, mais aussi à la fois comme l'épouse. Je vais te donner la différence entre un enfant et puis l'épouse. Tu vas te rendre compte que même si tu aimes ton enfant comme quoi dans la maison, ton épouse a toujours une place très particulière. Que les hommes mariés disent l'épouse. Oh. Que les hommes mariés disent l'épouse. Il n'y a pas beaucoup de mariés ou quoi.
L'épouse, elle a un accès que l'enfant n'a pas. Le premier accès, par exemple, qui me vient à l'esprit, le premier accès que l'épouse a, par exemple, c'est qu'elle voit l'époux nu. L'enfant ne voit pas le papa nu. Un enfant qui voit son papa nu, on le bastonne. Il n'a pas le droit de voir son papa nu. Jamais un enfant ne doit voir son papa nu. Jamais. L'épouse, elle voit son époux nu. L'épouse, elle reçoit des révélations et des secrets sur son époux que l'enfant ne connaît pas. Quand elle est dans la couette avec lui, là, et puis il parle dans leur silence, dans la clim, là, il lui dit des choses que l'enfant... il dit des choses que l'enfant ne peut pas entendre. Et... oh, vous aussi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui. Hein, chérie? Même tu sais. Un jour, il y a un pasteur qui racontait que leur enfant commençait à devenir dans la maison très, très insolent. C'était un pasteur. Mais l'enfant avait maintenant connu les choses du monde, tout ça. Et puis maintenant, ça commençait à devenir compliqué parce qu'ils essayaient vraiment de garder leur enfant droit dans le Seigneur. Mais l'enfant maintenant commençait à rétrograder. Il voulait maintenant sortir. Il commençait maintenant à fréquenter des amis à l'école, etc. Et puis un jour, il y a eu une violente dispute à la maison entre la mère et l'enfant. Le père était dans la chambre et est resté calme. Il dit, bon, elle va régler ça. Et là, le ton monte. Et puis l'enfant commence à parler à la maman. Il commence à dire des paroles dures à la maman. Le père, à ce moment, sentit un truc qui est monté en lui. Il est sorti, il est arrivé au salon, calme. Et puis, l'enfant est en train de parler. Oui, j'en ai marre. Et elle dit, je suis ta mère, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je m'en fous, si tu es ma mère, etc. Oh, va là-bas, va te faire. Dès qu'elle a dit, va te faire. Le père a dit, stop. Il s'est tourné vers le fils. Il a dit, écoute-moi bien, jeune homme. Tu es mon fils. Tu vois cette femme? Cette femme, quand j'étais étudiant, je l'ai rencontrée. Je l'ai trouvée magnifique. Je lui ai fait la cour. Elle m'a fait tourner comme un canard. Un soir, elle a accepté de se sortir avec elle. Je l'ai dragué, je l'ai endorloté, on s'est fiancé, je lui ai mis la bague au doigt, elle m'a connu dans mes galères, etc., etc. Elle a toujours été à côté de moi. Cette femme-là, tu vois, fils, c'est mon épouse. Tu es mon fils, mais je ne permettrai jamais qu'on dise va te faire à mon épouse. Donc, la manière dont je vais te bastonner aujourd'hui. Il a pris son fils, il l'a frappé comme il ne l'avait jamais frappé auparavant. Même l'enfant dit, mais papa, comment tu peux me frapper comme ça? Je te frappe comme ça parce que tu as insulté mon épouse. Jamais tu insultes mon épouse. Hé, même si tu es mon fils. Le jour là, la relation avec la maman et l'enfant, ça a changé. Hein? Il n'a plus jamais haussé le ton dans la maison. Il est parti faire un tour pendant quelques mois dehors et il est revenu à la maison. Tiens avec moi l'épouse. Voici la position que nous avons avec Dieu. Amen. C'est la position la plus élevée. Et la Bible, toute la Bible, est l'histoire d'un époux qui ramène son épouse. Toute la Bible, c'est cette histoire-là. L'épouse. Et quand vous prenez le dernier livre de la Bible, Apocalypse, elle parle tout le temps que de l'épouse. L'épouse, l'épouse. Les noces de l'époux et de l'épouse, etc. Heureux ceux qui sont invités aux noces, etc. etc. C'est une histoire d'épouse. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans les histoires de couple. Parce que tout vient de là. C'est une histoire d'épouse. En fait, Dieu, là, il cherche une femme. C'est une femme. Vous n'avez pas remarqué que nous, les hommes, cette histoire de femme, là, c'est des combats dans le cœur. Pourquoi? Parce que l'homme a été conçu comme Dieu. Tu vois, non? La femme aussi a été conçue comme Dieu. Mais il y a un truc avec l'homme. Je te dis que même l'homme, le plus dur, le plus ferme, quand une femme entre, ah, quand une femme arrive, On peut tout faire. On ne comprend. C'est comme si elle a pris le cerveau du gars, elle a tourné comme ça. On ne sait pas. Comme dit souvent ma mère, on est un intellectuel comme ça. Je ne comprends pas comment il peut se faire endormir par une femme. Tu ne peux pas comprendre. Salomon dit dans le livre des Proverbes, il y a trois choses que je ne comprends pas, dont je ne comprends pas le mystère. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Il dit, le premier, c'est la trace du bateau sur l'eau. Le deuxième, c'est la trace du serpent sur la pierre. Et le troisième, c'est la trace du jeune homme qui va vers la femme. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, tu es là, tu es tranquille, tu es bien, tu as médité, tu es content, tu es avec le Seigneur, tout ça. Et puis tu dis, tu vas à l'église aujourd'hui. Et puis là, il y a une fille qui passe. Oh! Le cœur commence à battre. Tu dis, tu fais, mais la gola, c'est qui? T'as dit, tu es à là-bas, elle est ici. Mais c'est comme si on est, tu es à l'autre bout de la salle, mais elle te perturbe. Elle te perturbe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ah, l'amour, vraiment. Dis avec moi, on avance. Rendez-vous le 28 février au séminaire. Gloire à Dieu. On a fini. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix était un sacrifice énorme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, à la croix, a accompli ce que la parole de Dieu nous appelle l'œuvre rédemptrice de Christ. Dis avec moi l'œuvre rédemptrice. Et c'est là la clé. Pourquoi c'est la clé? Parce que tout simplement, dans ce que la Bible appelle l'œuvre rédemptrice, dans ce que Jésus-Christ a accompli, Jésus-Christ nous a tout donné. Et cette grâce-là, elle nous donne accès à tout. C'est-à-dire maintenant, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, quelles que soient les addictions, ce que le Seigneur nous dit ici, ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous appuyer que sur ce qu'il a fait. De ne plus nous appuyer sur nous-mêmes, de ne plus nous appuyer sur nos moyens, sur nos diplômes, sur notre argent, sur les gens. Le Seigneur dit tout ça, c'est bien, d'accord ? Mais l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est ce qui te délivre dans ta mentalité, ta manière de te voir, ta manière de te regarder, ta manière de regarder ton passé, ta manière de regarder ta famille. Quand tu te rends compte que Jésus-Christ a tout accompli, Jésus-Christ t'a nettoyé, Jésus-Christ t'a accepté, tu as une paix qui s'installe dans ton cœur où tu sais maintenant, et c'est là la révélation, que en fait, ce Dieu-là, je suis en relation intime avec lui. Par exemple, avant que je comprenne ça, quand je ne priais pas le matin, je culpabilisais. Je dis, oh, j'ai pas prié, oh, j'ai pas prié. Oh, si j'ai pas prié, il va m'arriver peut-être un accident. Oh, j'ai pas prié, oh, j'ai pas prié. Oh, je suis pas trop spirituel aujourd'hui parce que j'ai pas prié. J'ai pas prié, oh, j'ai pas prié, j'ai pas prié. Donc, quand j'étais au travail, je m'enfermais dans les toilettes. Ah, oh, génial, faut que je prie. Je regarde le temps. Ok, j'ai prié. J'ai prié. Mais la relation d'intimité, est-ce que c'est parce que ton épouse ne t'a pas parlé le matin qu'elle reste pas ton épouse quand même? Il y a des fois ton épouse se lève, elle a pas envie de te parler, elle claque la porte, boum, elle est partie. Hein. Tu l'appelles, elle décroche pas. Tu l'appelles, elle décroche pas. Tu l'appelles, elle décroche pas. Tu dis, mais encore son portable, comme ma femme. Tu l'appelles, elle décroche pas. Tu l'appelles, elle décroche pas. Et ça t'énerve, tu l'as. Mais en fait, elle reste ton épouse quand même. Elle va rentrer à la maison le soir. Elle va te faire à manger si tu ne l'as pas trop embêté. Il ne faut pas embêter ton épouse. Si tu l'embêtes, elle ne te fait pas à manger. Donc, en Jésus-Christ, nous avons tout. Et ce n'est pas parce que tu as des manquements, ce n'est pas parce que tu as des faiblesses ou des lacunes que Dieu t'aime moins. Parce que dans notre conception, et il y a beaucoup même de pasteurs qui fonctionnent comme ça, qui font croire aux gens que parce qu'ils ne font pas ça, alors ils n'auront pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux enseignements que l'on reçoit. Tu sais, hein, si tu jeûnes, vraiment, si tu jeûnes 40 jours à sec sans eau, faut pas essayer, si tu n'es pas prêt. 40 jours à sec sans eau, tu vas avoir une de ces onctions-là. Oh! Qui va venir sur toi. Alléluia! Celui qui vient, le prophète des prophètes, s'ils t'imposent les mains, tu vas avoir une double, quadruple portion au nom de Jésus. Tu vas avoir une guérison. Il y en a un là, un pasteur que j'aime beaucoup, ce qui passe toujours sur Béni TV là, un pasteur ivoirien. Oh, quand il parle celui-là, chaque fois qu'il passe, je demande à ma femme, je rigole comme pas. Si tu viens à cet événement, Dieu va entrer dans ta vie. Il parle comme ça, oh. Il parle comme ça. Il va entrer, et puis il aime toujours mettre les mains comme ça. Il va entrer dans ta vie. Les portes qui sont bloquées vont être débloquées. L'argent qui va couler à flot. Il parle. Non. C'est-à-dire, il est en train de te mettre une épée d'Amoclès sur la tête que si tu ne viens pas, tu vas rater quelque chose. Oh! Non, mais en Jésus, on a tout. En Jésus, on a tout. Une fois, le pasteur Amadou Karambiri encore racontait une histoire. Le culte commençait à 8 heures. Et à 7h30, 30 minutes avant le début du culte, sa femme s'étonne qu'il n'est toujours pas à l'église. Donc, elle retourne à la maison. Et quand elle arrive à la maison, elle s'attend à trouver son mari en train de partir. C'est quand même le pasteur. Hein? Elle le trouve, il dort. Il dort. Elle dit, où? Elle dit, mais chérie, c'est comment? Tu es malade? Non. Laisse-moi, je dors. Mais le culte commence à 8 heures. Et alors? Mais tu ne te lèves pas, tu ne prépares pas le culte, tu pries pas. Il dit, c'est pas parce que je dors comme ça que Dieu ne va pas me donner la parole. Je vais prêcher, c'est quoi ton problème? Tu penses que ça va changer quelque chose? Tout est grâce. Le gars, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir avant le culte. Hein. Est-ce que je vous vois clair là? Il faut te lever, tu pries. Hein? Tu n'es pas le pasteur. Hein? Laisse-le. Lui, il a sa relation avec Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Donc le gars, il s'est levé tranquillement, il a mis la veste et puis il est parti. Regarde le message qu'il a donné là. Tu ne sais pas parce qu'il allait chercher ça. C'est comme toi qui aimes prier des heures et des heures et des heures. Un jour, je lisais dans le livre des héros de la foi, Smith Migglesworth, il disait, je ne prie jamais plus. On lui demande, combien de temps vous priez? C'était un grand évangéliste très connu de l'époque. Combien de temps vous priez? Il dit, je ne prie jamais plus de 5 minutes, mais je prie tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il dit, en fait, cette histoire de se lever, prier dans la chambre, ça ne fait, je ne dure jamais plus de 5 minutes. Mais par contre, je suis tout le temps en train de prier. Vous voyez ou pas? C'est très important. Donc, en Jésus-Christ, nous avons tout. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a accompli la loi. Jésus-Christ a répondu à toutes les exigences de la loi. En Jésus-Christ, nous n'avons plus de condamnation. En Jésus-Christ, nous avons tout ce qui fait que le Père nous aime. Maintenant, pour finir avec ça, il y a une question que je me suis posée quand j'étais en train de méditer sur ça. C'est, mais Jésus, si Jésus a tout fait, mais pourquoi la Bible dit que Satan alors a été désarmé, etc. Et si Satan a été désarmé, pourquoi alors on a l'impression que Satan a toujours un pouvoir sur nous? Pourquoi on a l'impression que Satan a toujours un pouvoir sur les chrétiens? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que Satan est toujours aussi puissant dans la vie des gens? Et la réponse, elle est venue. Je vais te donner une image pour que tu comprennes. Imagine que tu as pris un crédit à la banque, hein? Et puis, on t'a donné un échéancier, et puis tu rembourses tous les mois ton crédit. Et au bout, le crédit devait durer 10 ans. Et au bout de 10 ans, ton dernier prélèvement est passé sur le compte, parce que tu payais ça par prélèvement, tu ne te rendais même plus compte, ça prélevait seulement tous les mois sur le compte. Et au bout de 10 ans, le dernier prélèvement est passé, mais tu n'arrêtes pas le prélèvement automatique. Tu continues toujours ça continue toujours à passer, alors que tu as fini de payer, de rembourser. Et puis, le banquier t'envoie toujours les lettres. Tu dois. Mais toi, en fait, tu ne te rappelles même plus que ton échéancier devait finir au bout de 10 ans. Le problème, c'est ça, c'est que la dette a été payée, mais toi, tu veux continuer à payer. Et Satan, son arme, c'est laquelle? Et bien, c'est celle qu'on a vue depuis une heure maintenant. C'est la loi. Satan, son arme la plus puissante, c'est de toujours venir brandir la loi devant toi en te disant, tu n'es pas si bon que ça. Tu es encore pécheur, tu es toujours pécheur. Tu sais que tu es toujours pécheur, tu es toujours endetté envers le ciel. Tu dois toujours payer. Et Jésus-Christ te dit, mais la dette est payée, fils. Arrête de culpabiliser avec ta vie. Arrête. La dette est payée. C'est comme par exemple quelqu'un qui était dans le monde. Et dans le monde, c'était un grand bandit. Et il a tué des gens. Et il a toujours vécu avec ce remords. J'ai tué des gens, j'ai fait de la prison. Et puis un jour, il rencontre Jésus-Christ. Et puis on lui parle de ça. Ta vie est effacée. Il dit, ah, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans le passé, là, Dieu ne va pas me demander des comptes pour ça. Non. Oh, tous les gens que j'ai tués là, Dieu ne va pas me demander des comptes pour ça. Non. C'est pour ça qu'un jour, un pasteur a dit, il y en a qui vont arriver au ciel. Et quand ils vont rentrer au ciel, au moment où ils rentrent dans la salle du trône, il arrive, il voit Hitler, il voit Mobutu, il voit Omar Bongo, il va dire, oh, je ne suis pas au ciel. Donc, cette histoire de grâce-là, si, quelle que soit la personne, si la personne a donné sa vie à Jésus, frère, quel que soit ce qu'elle a fait, elle est montée. C'est comme le voleur qui était crucifié à côté de Jésus. Le gars était voleur, il était destiné à aller en enfer. L'autre dit, mais si tu es Jésus, sauve-toi toi-même. Oh non, il n'a rien fait. Oh Jésus, quand tu vas arriver dans ton règne, souviens-toi de moi, Jésus-Christ. Aujourd'hui même, tu vas être au paradis avec moi. Chioup, il est rentré. C'est pareil. Imagine que Hitler, avant de rendre le souffle, là, au moins il fait, avant de mourir, il dit, Jésus, pardonne-moi. Là, il est parti. Hein? Il est parti. Si c'était sincère, qu'il a fait, c'était sincère. Il est rentré. Tu vas être étonné de les trouver là-bas. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé. Je suis en train de réécrire l'histoire. D'accord? Mais je dis que la grâce, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans la religion. Quand tu leur parles de ça, ils te disent, non, votre christianisme là, vraiment, c'est trop facile. C'est trop facile. Quelqu'un ne peut pas commettre de telles choses et puis Dieu va lui pardonner. Si c'est ce Dieu-là, alors moi, je ne peux pas croire en ce Dieu-là. Parce que les gens vivent dans la loi. Les gens vivent dans... S'il a fait, il doit payer, quoi. Il doit payer. Même au ciel, il faut qu'il paye. Donc, quelle était l'arme de Satan? L'arme de Satan, c'était la parole. La parole que Dieu avait déclarée sur l'homme. La parole que Dieu avait déclarée sur nous. Et cette parole disait que l'homme est pécheur et c'est la loi qui le juge. Et la Bible nous dit dans, je crois, c'est dans... Je ne sais plus dans quel passage, dans Colossiens, je crois. La Bible nous dit que Satan a été désarmé. Satan, et là, il l'appelle l'accusateur. Dans Apocalypse 12, 10, il est écrit, c'est un ange qui crie, l'ange crie, et j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut, dis quoi, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Dis avec moi, il a été précipité. Il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors, comment il les accusait devant notre Dieu jour et nuit? Mais il prenait la loi. Dieu, il est coupable. Regarde. Regarde, il est coupable. Et c'est ça l'accusateur. Mais tu sais cette histoire de précipité là. Je suis allé chercher le mot précipité. Tu sais ce que ça veut dire précipité là? Précipité, c'est piou, précipité. C'est pas on négocie, il sort par la grande, non, c'est pouf, tu dégages. C'est pouf, pouf, dégage. Pouf. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent, oh, Satan mène encore un combat avec Dieu, etc. Non, Dieu ne se combat pas avec Satan, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, au moment même où Satan pense à combattre avec Dieu, pouf, la gifle, il ne l'avait même pas arrivé. Donc le diable passait son temps à brandir ça. Et la loi qui nous jugeait, c'était ça sa force. Et cette loi, Jésus-Christ l'a totalement accomplie. C'est pour cela que maintenant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu en Christ,
je t'assure, accepte-le. Il n'y a aucune condamnation, aucun remords, aucun regret à te faire. Dieu t'a totalement justifié. Maintenant, le problème que Dieu maintenant a avec certains chrétiens qui se laissent intimider par le diable, c'est que certains chrétiens, quand on voit leur comportement, ils se comportent comme si la loi les jugeait, la parole de Dieu les jugeait à cause de ce qu'ils avaient fait dans le passé. La Bible dit dans le Proverbe que le juste tombe sept fois, il se relève sept fois. C'est comme quand, je ne dis pas qu'on est parfait et on ne peut pas pécher. Ça peut t'arriver de pécher, ça peut t'arriver de commettre des fautes, avoir un moment de faiblesse et puis tu tombes, etc., etc. Mais ta force, en fait, tu ne dois pas la mettre dans la loi, tu dois la mettre dans la grâce et te relever en croyant que Dieu te pardonne. Mais il y en a qui font des choses, qui vont faire des grosses bêtises et puis quand ils se relèvent, on dit pourtant Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné. Mais tous les dimanches au culte, il est toujours en train de pleurer. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu t'a pardonné. Ok, Dieu m'a pardonné. Dimanche après, il revient. Mais Dieu t'a pardonné, gay. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est exactement ça. Dis avec moi, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a pardonné. C'est pour cela, et là je vais lire une série de versets pour ma conclusion. La Bible dit dans Hébreux 7, dans Hébreux 7 au verset 24, « Mais Jésus, dis avec moi Jésus, est éternel. Il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. » Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Amen. Parce qu'il vit éternellement et peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Jésus-Christ est éternel. Et quelle que soit la faute, quel que soit notre péché, Jésus-Christ nous a délivrés de la loi. Pourquoi? Parce que Satan brandissait la loi comme ça. Un peu comme le procureur des ténèbres, il brandissait la loi comme ça au-dessus de ta tête. Et chaque fois, par l'intimidation et la culpabilité, il te dit, tu as fait ça, je te frappe. Et Jésus-Christ a pris l'épée en question et l'a jetée aux oublis. Amen. Galates 3:13 dit, Christ, dis-moi Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit quiconque est pendu à un arbre. C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-juifs. Grâce à Jésus-Christ. Les non-juifs, c'est qui? C'est toi. Grâce à Jésus-Christ et que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Quelle que soit l'arme que Satan pouvait brandir sur ta vie aujourd'hui, sache qu'il est désarmé. Il est désarmé. Tu vois le chant qu'on a chanté tout à l'heure hein? Dieu combat pour nous tous, il repousse les ténèbres, fait briller son royaume qui ne tremble jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est... Et nous le déclarons. Voici ce que Paul fait dans la déclaration. Colossiens 2:13, ça c'est le verset qui casse tout pour lui. 2 Colossiens 2:13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce, dites moi grâce. Pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. En le clouant à la croix. Qu'est-ce qu'il a cloué à la croix? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé. Dis avec moi, il a dépouillé. Tu sais, c'est quoi dépouiller? C'est comme si je te prends là, je te mets tous les puis je te dis, va courir dehors. Si tu es nul là, et puis tu vas courir dehors, qu'est-ce que tu vas sentir? La honte, la défaite. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dites moi, le corps est en Christ. Comme ce n'est pas suffisant, on va aller encore plus loin. Verset parole vivante qui dit, oui, dites moi oui. Vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous
pardonnant tous les péchés par sa grâce. Dites-moi sa grâce. Il a effacé l'acte aux mille articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé. Dites-moi, il l'a annulé. Et il l'a cloué à la croix. Il l'a démasqué. Et puis il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Ah, ça c'est ton ennemi, celui dont tu as peur tout le temps là. Il est désarmé. Il n'a aucun pouvoir. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Tu sais quoi, traîner derrière son char, c'est prendre le gars. Tu vois un peu comme tu vois dans les films de gladiateurs là. On prend le gars et puis on le traîne dans le sable là. Pour bien l'humilier. Tu vois, c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance des jours de fête. Si tu ne fêtes pas Noël, tu ne sais pas un chrétien. C'est une bêtise. Des nouvelles lunes ou des sabbats, tous ces rites n'étaient que des figures passagères. Hommes de choses à venir, la réalité est en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Satan, Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc Satan ne peut plus te maintenir dans la culpabilité, dans l'intimidation, dans le manque ou dans quoi que ce soit. C'est un menteur, dis-moi, c'est un menteur. Fais bouger le plafond.
C'est un menteur.
Souviens-toi toujours de ça. Donc le message de la grâce est le message qui libère. C'est le message qui te fait prendre conscience de ta condition, comment Dieu te voit. Amen. Gloire à Dieu. Je veux qu'on acclame encore le Seigneur pour ça. Sur tes enfants, Seigneur. Tu nous as rétablis à la position, Seigneur, d'intimité, à la position de fils héritier et à la position d'épouse, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu n'as pas regardé à nos fautes, à nos transgressions, Seigneur. Tu nous as pardonné pleinement, Seigneur. Alors l'ennemi qui est vaincu ne pourra plus jamais nous intimider. Il ne pourra plus jamais intimider qui que ce soit. Il ne pourra plus jamais intimider qui que ce soit qui vit dans le péché. Parce que ta grâce relève le pécheur. Ta grâce guérit le malade. Ta grâce, Seigneur, nous lave de nos fautes et de nos transgressions. Seigneur, merci pour l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Béni sois-tu encore pour ce que tu fais. Béni sois-tu encore pour ce que tu as accompli, Seigneur, à la croix pour nous. Mais bien plus encore, tu es ressuscité, Père, et tu nous as fait asseoir avec toi à la droite de Dieu. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton œuvre, merci pour ton amour, merci pour la grâce surabondante, Seigneur. Car là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé, Seigneur. Et nous te disons merci parce que ta grâce pour nous a surabondé, Seigneur. Nous sommes libres, libres de te louer, libres de te chanter, libres de t'aimer en toute sincérité, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Merci pour l'œuvre que tu as commencé à la maison du bâtisseur. C'est œuvre que tu rendras parfaite par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire et la louange dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.